Qui n'a jamais entendu parler de non-dualité ?
De
perspective non-duale, de non-dualité. Tout le monde en a déjà entendu parler ? Non ? Vous savez pas ce que c'est ? Je préfère ces mots de perspective non-duelle à celui de non-dualité. La perspective non-duelle, en fait, on la retrouve dans toutes les traditions. On la retrouve dans l'hindouisme, dans l'Advaita Vedanta. On la retrouve dans le bouddhisme Zen. On la retrouve dans les saints chrétiens. Seul Dieu est. On la retrouve partout. Sauf que plus souvent, c'est masqué, oublié, transcrit autrement, etc. Mais pourquoi perspective ? Parce qu'en fait, il s'agit simplement d'un changement de point de vue. Et le simplement est important. Souvent, on fait toute une histoire, on croit que c'est compliqué, on croit qu'il faut faire plein de trucs avant d'y arriver, qu'il faut acquérir ci et ça, qu'il faut pratiquer ci et ça, etc. Je ne dis pas qu'il ne faut pas le faire. Je dis qu'il s'agit d'un changement de perspective. D'une façon générale, on croit que l'on est ce qu'on croit être, c'est-à-dire moi. Qui tu es ? Si je pose cette question, elle va dire bah, je suis moi, et c'est quoi toi ? Ben, je suis une femme, j'étais là, je suis un homme, j'étais là, j'ai des enfants, je suis marié, et t'es comment toi ? Ah ben, moi j'ai telle et telle qualité, puis j'ai telle et telle défaut, puis j'ai telle et telle histoire. On croit qu'on est ça. On croit qu'on est le corps, j'ai mal, on croit qu'on est nos émotions, on croit qu'on est nos pensées, on croit qu'on choisit, qu'on est responsable de nos choix, voire coupable, on croit que c'est nous qui agissons, mais on ne s'est jamais posé la question de savoir, mais c'est quoi exactement ce moi qui prétend être aux commandes de l'organisme ? Qui prétend que c'est lui qui choisit, que c'est lui qui pose les actes, que c'est lui qui est l'auteur des pensées. C'est quoi ? Il est où ? De quoi est-il fait ? Montrez-le-moi, c'est moi. Et la perspective non-duelle, en fait, plus exactement, en adoptant une perspective dite non-duelle, on s'aperçoit qu'en réalité, il n'y a pas de moi. On parle d'un changement de perspective, d'un changement de point de vue. Tout se passe comme si, d'une façon générale, on avait des œillères, ou un champ de vue réduit, ou comme si on était nez collé contre l'idée d'un moi. Alors on ne voit que ça. Mais vous savez bien comment c'est, si vous êtes collé, vous mettez la main devant les yeux, vous n'allez pas voir grand-chose. Mais plus vous l'éloignez, et plus vous allez voir des choses. Et c'est cela dont il s'agit. Au lieu de simplement être identifié à l'idée d'un moi, qui est juste une croyance inculquée dans l'enfance, enfin acquise dans l'enfance, de prendre la distance, et on se rend compte que c'est juste une idée crue, il y a un moi. En réalité, il n'y en a pas. De même qu'étant enfant, on a dû croire au Père Noël, au Père Fouettard ou à Saint-Nicolas, on croit l'idée d'un moi. Il se trouve que quand on était petit, un jour on nous a dit, tu sais, Père Noël, il n'y en a pas. Saint-Nicolas, il n'y en a pas. Perfectoire non plus. Les Dahut non plus. Mais on ne nous a jamais dit, le moi, il n'y en a pas. Et en fait, c'est ce qu'affirme la perspective non-duelle, il n'y a pas de moi. C'est-à-dire, spécifiquement, il n'y a pas d'auteur, il n'y a pas de pilote aux commandes de l'organisme. Tout arrive de soi-même. Les pensées apparaissent, les actes apparaissent, les choix se font. Quelle que soit la torture mentale qu'on a pu s'infliger avant qu'un choix se pose, le choix se pose. À un moment donné, il est fait. Bon, moi j'ai dit ce que j'avais fait pour l'instant. J'imagine que ça peut faire un petit peu réagir. Bon, c'est le... Et donc, c'est, le... c'est un point central de ce que dit la perspective mondiale. Ce que dit aussi la perspective mondiale, c'est que toute souffrance d'ordre psycho-émotionnel, à opposer, enfin, à différencier de la douleur physique, toute souffrance est toujours due à une ou des pensées qui sont crues, il va me croire. Pas de pensée crue, pas de croyance, pas de souffrance. Autrement dit, la perspective mondiale, qu'on trouve dans le bouddhisme, en fait, qui est à l'origine même du bouddhisme, de ce qu'a raconté le Bouddha, hein, je ne sais pas quel verbe mettre, mais on va dire permet de réaliser qu'en réalité la souffrance est construite de toutes pièces à partir de croyances. D'histoires qu'on se raconte, auxquelles on croit. On ne sait même pas pourquoi. Et c'est pas grave. Et la perspective non-duelle aussi, elle s'appelle non-duelle pour une raison bien précise, c'est qu'en réalité, de ce point de vue, il est évident qu'il n'y a pas de séparation. Il n'y a pas deux. Même un, c'est de trop, c'est déjà de trop, dans l'absolu. Il n'y a pas deux. On pourrait dire qu'il y a unité. Il n'y a aucune séparation. Ça veut dire aussi aucun manque. Aucune sensation de manque. Ce qui veut dire aussi que toute idée de séparation n'est qu'une idée. Tout sentiment de séparation, d'être séparés les uns des autres ou de quelqu'un en particulier, etc., n'est qu'une idée, n'est qu'un sentiment. Que toute impression de manque n'est qu'une impression. Qu'en réalité, elles sont construites. Ils sont construits. C'est une fausse vision de la réalité. C'est une vision, on pourrait dire, étriquée, j'aime pas le mot, mais réduite, limitée, vue de trop près, déformée de la réalité. Et que dès qu'il est pris un peu de recul, on s'aperçoit que c'est faux. Dès qu'on cesse de coller à nos croyances, on s'aperçoit qu'en réalité, il n'y a pas de séparation, il n'y a jamais eu de manque, il n'y a jamais eu de moi, etc., etc. Et la souffrance s'effondre. Alors on peut d'abord en faire l'expérience, ce que beaucoup de gens racontent lors d'expériences mystiques, ou simplement, ça peut être en se promenant en forêt, ça peut être, je ne sais pas, après avoir fait l'amour, ça peut être au moment d'un accouchement, ça peut être dans des moments plus ou moins... spéciaux, à un moment donné, il n'y a plus de pensée. On est juste bien. C'est juste tranquille. Et dans ces moments-là, il n'y a pas d'idée de manque, il n'y a pas d'idée de séparation, il n'y a pas d'idée d'un moi, il n'y a même pas l'idée de l'âge que j'ai. Bien sûr, si on me demande, je sais. Mais tout cela s'effondre pour un moment. Il y a juste être. Il y a juste ce qui est là maintenant. Puis leur mental se remet en route, il y a des pensées qui apparaissent. Ah, en fait, il faut que je fasse ceci. Ah, puis t'as vu un tel qui m'a fait. Ah, puis donc, il va quand même falloir que. Mais qu'est-ce qui est le plus réel? Généralement, on répond bah ouais, mais le plus souvent, il y a des pensées, le plus souvent, il y a des sensations de manque, de séparation, de ce qui a des impressions de bien. On souffre, enfin, etc., quoi, de mal-être, etc. Bah oui, donc c'est ça qui est réel. Eh ben non, c'est pas ça le plus réel. Et en fait, c'est ça le changement de perspective qui s'opère, qu'on appelle la réalisation, l'éveil, etc. C'est qu'au lieu de croire que l'on ait ce corps, que l'on ait ces émotions, que l'on ait ces pensées, que l'on choisit, que l'on agit, etc. Il est réalisé que tout arrive de soi-même et que ce que je suis est en amont de tout ce qui arrive et constate tout ce qui arrive. Tout arrive au sein de ce que je suis. Et quand je dis tout, je ne dis pas seulement ce qui arrive à cet organisme appelé tout. Et j'en suis pas séparé. Quoi qu'il se passe, cela se passe en ce que je suis, et je n'en suis pas séparé. Et ce que je suis, ce qui est, n'en est pas séparé. C'est une totalité absolument indissociable. Si on met de côté l'idée d'un moi, qui pourrait faire ou ne pas faire quelque chose? Si réellement, comme je le dis, il n'y a pas de moi, quel moi pourrait bien faire ou ne pas faire quelque chose?
Rien.
Et cependant, je viens de bouger la main et tu viens de dire rien. Comment cela se passe-t-il? Présupposé, tu vois, le plus souvent quand on se met à parler, on parle du point de vue de j'ai un moi, je suis ce moi. Et ta question, elle est posée comme ça. Et tu vois, et là, ce que je viens de faire, c'est de te dire regarde, enfin, sans le dire, et ah, ça se décolle, tu vois, ça se décolle, tout d'un coup, ça se décolle. Oh, mais vite, ah, au secours, un moment, tu vois, et ça revient vite se coller parce que. Comme une peur, là, tu vois, de « Oh là là, qu'est-ce qui m'arrive ?» Et en fait, tout est là. Ce n'est pas faire quelque chose, ce n'est pas faire rien qui est encore faire quelque chose. Et ce n'est sûrement pas ne rien faire. Et la montagne, comment je peux ne rien faire et rien faire quelque chose tout en ne faisant rien, tu comprends c'est... Gérard, il fait des bêtises. C'est pas possible. Parce que tout cela s'appuie sur l'idée c'est moi qui fais ou c'est moi qui ne fais pas. Si tu enlèves cette idée, tu viens de hocher la tête. Est-ce qu'il y a un moi qui l'a fait ou est-ce que ça s'est fait tout seul? Ça sourit. Ce qui rit, ça se fait tout seul ou est-ce qu'il y a un moi qui le décide?
Ça se fait tout seul.
Pourquoi dire c'est moi qui souris, c'est moi qui ris? Ça se fait tout seul. Si on regarde, quand on est en pays, je me vois, etc., si on regarde, on se rend compte qu'en fait, ça se fait tout seul. Et puis je parle, il y a sûrement eu des pensées qui sont apparues. Vous les avez pensées ou bien est-ce qu'elles sont venues toutes seules?
Oui, mais il y a bien une conscience du corps, une conscience individuelle.
C'est une conscience individuelle, Marion?
Une conscience du corps, oui.
Oui, je pense que
le corps est là.
Oui, mais j'ai conscience de certaines sensations dans mon corps, mais je n'ai pas conscience des sensations dans le corps du voisin.
Ça t'est jamais arrivé d'avoir les sensations du corps du voisin?
D'avoir les sensations du
corps. De ressentir les sensations du corps du voisin?
Il dit comme ça, non?
Ça t'est jamais arrivé de savoir ce que l'autre sentait?
Ah, de voir, si, l'idée que...
L'idée?
D'avoir des informations qui me font penser qu'ils ressentent quelque chose.
Et t'as pu vérifier si c'était vrai?
Comment?
T'as pu vérifier des fois
oui.
que c'était vrai?
Ouais.
Comment ça se fait?
Comment ça se fait? Parce que j'ai reçu des informations et j'en ai déduit.
Je ne crois pas, Catherine. Ça vous est jamais arrivé, vous passez tous les jours par un chemin, puis un jour vous ne savez pas pourquoi vous prenez un autre chemin. Justement, ben, ici, il y avait un accident sur l'autre route, où il y avait je ne sais pas quoi, un bouchon ou je ne sais pas quoi, où vous arrêtez en arrêt, vous tombez en arrêt pour un truc. Ah, ça c'est pour un tel. Mais ce n'est pas, c'est pas un objet quelconque, ce n'est pas son anniversaire, ni sa fête, ni je ne sais pas quoi, c'est juste. Vous ne savez pas que ça émerge, s'y suit. Vous n'avez pas des trucs comme ça, jamais?
Si.
Si. Comment ça s'explique? Vous avez commencé à ce moment-là. Il n'y a pas de réflexion mentale, vous l'achetez, vous l'offrez. Waouh, la personne, c'est justement ce que je cherchais, c'est un vestibule, je le cherche. Hein? Ou bien vous dites, oh, mais c'est pas la peine, c'est n'importe quoi, puis d'abord c'est pas son anniversaire, puis j'ai pas assez de tout, puis si, puis ça, peu importe. Vous savez bien que vous vous ratez. Toi qui es prof de yoga et qui es thérapeute, tu vas me faire croire que tu ne sais jamais ce qui se passe chez l'autre?
Parce que
je
crois des informations,
Ah, tu crois que c'est parce que tu as des informations visuelles?
Oui, bien sûr, j'ai beaucoup d'informations visuelles déjà.
Mais tu parles d'écoute.
Oui, mais j'écoute
quoi?
Plein de choses. Le ton de la voix, l'expression de regard, les mots employés, la gestuelle, le corps. Ouais.
Donc, on a une mécanique parfaite. Guidé par un moi extraordinaire qui analyse à une vitesse de la lumière plein d'informations dont on n'a même pas forcément conscience et qui sort quelque chose de parfaitement exact. Heureusement qu'il y a un moi pour faire tout ça. Heureusement qu'il y a un moi pour faire tout ça. Est-ce que tu vois un moi qui fait tout ça? Où est-ce que ça se fait?
J'ai l'impression qu'il y a un moi qui fait tout ça.
L'impression est-elle réelle?
Là est la question.
Pardon ?
Donc on a emmagasiné un tas d'informations, de faisceaux d'informations qui nous sont.
Est-ce que c'est à moi qui les a emmagasinées ou est-ce que ça s'est emmagasiné tout seul ?
L'expérience, l'observation, enfin, je ne sais pas.
Donc c'est pas à moi qui l'a fait.
Je peux partager quelque chose, par exemple.
Oui.
Là, c'est pas une histoire d'information. Non. Par exemple. Quand mon enfant était tout petit, juste avant qu'il pleure, à chaque fois qu'il allait pleurer la nuit, j'avais les yeux ouverts dans deux secondes avant. Alors là, c'est quelle information qui est arrivée?
On a acquis un vivre ensemble qui fait que.
Parce qu'on n'est pas séparés.
Ça, c'est un bon exemple parce qu'on était.
Mais est-ce que c'est un moi qui ouvre les yeux la seconde d'avant? Ou qui fait couler le gueule de lait la seconde d'avant?
On ressent de l'intérieur et après on mentalise. On croit qu'on doit mentaliser.
C'est ça?
On ressent d'abord de l'intérieur.
Si on est tellement conditionné par l'idée qu'il y a un moi qui fait tout ça qu'on ne se pose même plus la question. Mais si on regarde de près, il est où ce moi? Il est fait de quoi?
Après, il y a peut-être des chronos de temps aussi qui font que. Comme. Voilà, il y a tous les 3 heures, tous les 3 heures,
Voilà, autre chose. Moi, toute ma vie est comme ça, donc je vis, je dors avec quelqu'un qui sent tout, qui perçoit tout. Il dort. Mm-hmm. Je me réveille la nuit, j'ouvre les yeux, ah, j'ai mal au ventre là. Il dort, il est dans son sommeil, il soulève le drap, il pose sa main, pof, juste là où j'ai mal. Je lui ai pas dit que j'avais mal, c'est rien passé. Pourquoi ?
Non, c'est pas possible parce qu'il ne peut pas sentir ce qu'elle vit, en plus en dormant. Hein. C'est encore moins possible.
Non, mais et il dort.
Après, tranquillement, pas de conscience. Et si c'était pas comme on croit ?
Mais oui, c'est ça.
Je vous dis pas de croire ce qu'on vous raconte là, ici, aujourd'hui, ce soir. Mais de juste laisser la porte ouverte à l'idée que. Mais si c'était pas comme on croit ? Imaginez un instant qui n'est pas de moi, qui n'en ai jamais eu, et donc qui n'y en aura jamais. Autrement dit, qu'il n'y a aucun pilote qui n'a jamais rien fait. Que tout soit toujours arrivé de soi-même. C'est comment l'idée ? J'en ai pas.
Quelle arnaque !
Pour le Père Noël, là, c'est une sacrée arnaque.
Quand tu crois de ta vie, nous les uns, on se
fait. Mais ok, ouais. Mais passez le moment de.
Quelle blague !
Passez le moment de choc. C'est comment l'idée ?
Ah, bah c'est. Soulage. Quelle peine. Soulagement, quand tu vois,
c'est rare. C'est un soulagement.
C'est un
détente. Pas pour tout le monde.
C'est déculpabilisant.
C'est déculpabilisant. Bah oui, tu peux pas être responsable de ce que j'ai mal fait. Si ce n'est pas moi qui l'ai fait, ça s'est fait. D'ailleurs, les enfants disent très bien, mais je ne l'ai pas fait exprès. Fais attention ! Comment je peux faire attention s'il n'y a pas de moi ? Pour faire attention.
C'est pas que je ne suis pas responsable, j'ai envie de rajouter, c'est qu'il n'y a personne pour être la responsabilité est là, mais il n'y a pas d'entité qui a en possession cette responsabilité. C'est plutôt ça.
Moi,
ça ne veut pas dire qu'il n'y a jamais de responsabilité. C'est important de dire ça, parce que souvent on croit qu'il n'y a rien à faire, il n'y a personne pour être responsable de rien. C'est pas dans ces termes-là qu'on dit ça.
Il y a une complète responsabilité. Mais qu'il y ait plus de fait. Vous avez un enfant, il pleure, vous en occupez. C'est normal, c'est évident, quoi. Il n'y a pas besoin d'avoir l'idée d'un mois pour qu'une maman se lève la nuit et envoie papa pour s'occuper de ton bébé qui pleure. Ça se fait tout seul. J'irai même plus loin. Ça se fera beaucoup moins, beaucoup plus facilement s'il n'y a pas toutes les pensées à côté. Ouais, il y en a marre, ça met toutes les nuits à 3 heures, quand est-ce qu'il va faire ses lignes, il n'y a pas tout ça. Donc ça se fait, mais avec une aisance. Bien plus loin, il ne faut pas le voir. Les responsabilités sont prises. Mais en détente. Et les autres, c'est comment on dit qu'il n'y a pas de moi ?
Ça peut être un peu angoissant. Parce que si on a l'habitude de maîtriser, on a l'impression qu'on ne maîtrise plus.
Ah oui. Est-ce que tu as déjà maîtrisé quelque chose ?
Comment ?
Qu'as-tu maîtrisé dans ta vie ?
Non, mais dans le quotidien, je vous dis n'importe quoi. Au niveau, je ne sais pas, l'éducation des enfants, on a l'impression qu'on fait des choses qu'on doit peut-être, on veut tout bien faire, et s'il n'y a plus de moi, bon, c'est vrai que c'est un petit peu angoissant. Ça peut être angoissant.
Angoissant parce que ?
On a l'impression qu'on ne maîtrise plus rien.
Oui, mais est-ce que tu maîtrises, est-ce que réellement tu maîtrises quelque chose dans le domaine de l'éducation de tes enfants ? Est-ce que tu penses que tu... Mais regarde,
on a cette impression aussi.
Tu as l'impression. Qu'est-ce qui te donne cette impression ?
Quand on arrive à un résultat escompté, je ne sais pas, quand les enfants réussissent. Je ne sais pas, on a réussi des études, on a l'impression qu'on y est pour quelque chose, du coup,
Ça veut dire aussi, je trouve encore beaucoup plus angoissant, c'est que si par hasard ils ne réussissent pas, c'est ta faute.
Voilà, ça m'échappe.
Ça c'est bien pire.
Et c'est pire, ça.
Mais ça veut dire aussi que tu fais des choses parce que tu penses que c'est ce qu'il y a à faire,
voilà.
Que c'est bon pour l'enfant.
Voilà,
s'il n'y a pas de moi et qu'il n'y en a jamais eu, est-ce que tu arrêtes de faire ces choses ? Regarde. Est-ce que tu vas arrêter de te comporter en maman sous prétexte qu'il n'y a pas de moi? Est-ce que tu vas arrêter d'aimer tes enfants si à l'idée il n'y a pas de moi?
C'est pour moi une idée nouvelle, hein,
donc ouais. Je n'ai pas eu le temps de. Je suis désolé, je ne vous ai pas eu le
temps. Par contre, moi là j'ai un doute quand même. Je me demande s'il ne faut pas avoir un bon équilibre pour vivre ça.
Par exemple, poser cette
par
question.
Exemple, je le vis et je sens que je dois m'équilibrer, que je dois montrer en même temps. Donc, moi, je ne sais pas si pour quelqu'un qui n'a pas un équilibre assez important, ça ne peut pas être dangereux. C'est une question que je me pose. Hein.
Mais qu'est-ce que
par
tu
rapport à ce que je vis, par rapport à ce que
j'ai vécu. Quand tu dis je le vis, qu'est-ce que tu veux dire?
Je le vis, le détachement du moi, le détachement de ma personne, je le vis depuis pas mal de temps, j'ai failli basculer quand même. Ouais.
Je ne parle pas d'un détachement du moi, ni d'un détachement de ma personne. Je parle d'une réalisation.
Oui.
Qu'il n'y a pas de moi, oui. Entendu comme étant un auteur.
Oui, mais si on voit sur mon chemin de réalisation, je me suis sentie en perte d'équilibre, on va dire.
Bien sûr.
Donc c'est pourquoi pour répondre à la dame.
Et si tu te détaches de l'idée d'un moi, que tu mets à distance l'idée d'un moi est toujours là.
Oui, mais je parle de
l'idée. Il y a forcément une dichotomie entre l'idée d'un moi qui reste crue et la volonté de se détacher de cette croyance. Forcément, ça crée une tension quelque part, ça crée un mal-être. Ça crée ce dont tu parles, c'est un oh là là, faut que je m'en assigne.
Je ne sais pas quoi répondre parce que je ne sais pas si j'ai bien compris ce que tu as dit, mais ouais. J'ai exprimé mon ressenti par rapport à.
Oui, je repars à partir de tes mots, si tu dis, j'ai voulu me détacher de l'idée d'un moi. C'est ça qui est.
Je ne l'ai pas cherché, moi c'est venu en fait. Pour tout te dire, c'est venu. Donc je ne l'ai pas cherché, et peut-être parce que je ne l'ai pas cherché, je ne sais pas. Il y a un moment où j'étais vraiment. La peur, je savais que je ne devais pas avoir peur. J'ai eu cette crainte quand même. Mais je me demande si elle ne peut pas être quelquefois salutaire. Est-ce que je ne serais pas tombée dans un déséquilibre psychique? Je ne sais pas. Parce que ça s'est bien passé. Mais j'ai été. C'est ça que je voulais dire. J'ai été. Je ne sais pas si je n'ai pas été très limite quand même. C'est pour répondre. Je pense que le détachement du moi, quand même, on est en équilibre quelque part, à un certain moment.
Je ne parle pas d'un détachement du moi, mais de la réalisation qu'il n'y en a pas. C'est pas la même chose. C'est pas la même chose.
Peut-être. Juste dis ce que tu pensais devoir dire, sur le moment.
S'il n'y a pas de moi, qu'est-ce qui nous dirige sur l'abstraction du moi? Comment? Qu'est-ce qui fait qu'on peut faire, qu'on ne peut pas faire? Le mot choix, est-ce que ça existe?
Ça, c'est le mouvement de la vie, ça arrive.
Mais le mot choix, c'est comme le mot moi, il n'existe plus.
Le mot foi?
Choix. Choisir.
Le mot choix?
Avoir envie. Les envies, est-ce que ça existe? Parce que s'il n'y a plus de moi, en le moi, l'envie,
alors,
le choix.
Ouais, c'est une question très intéressante. Je distingue. La personnalité qui demeure. Je prends le sens. Je distingue l'idée d'un moi. Très spécifiquement, cette idée précise qui, tant qu'elle est crue, crée énormément de souffrance et tient les autres souffrances. L'ego, mot dans lequel je mets toutes les pensées crues, et la personnalité. La personnalité demeure. Vous êtes un homme, vous avez tel âge, vous avez des enfants, pas, vous avez tel métier, vous aimez telle chose, et vous n'aimez pas telle chose, et telle autre chose, que ce soit alimentaire ou pas, ou autre chose, peu importe. Il y en a, ils aiment vivre à la montagne et faire du ski, les autres, ils aiment vivre au bord de la mer et le soleil. C'est comme ça. Ces différences-là demeurent. D'accord? Et donc, les préférences liées à ces différences de personnalité, qui sont génétiques aussi, qui sont en partie conditionnées, en partie génétiques, demeurent. Tant que ça dérange rien une personne, on ne voit pas pourquoi ça s'arrêterait. Mmh. Quelqu'un qui n'a jamais mangé de chocolat, il ne peut pas aimer le chocolat. Mais celui qui en a jamais mangé, il peut l'aimer, et ça, il y a des chances pour que ça reste, il n'y a aucune raison pour que ça s'arrête, tout simplement. Par contre, si le chocolat lui fait du tort, peut-être qu'à un moment donné, il va regarder l'amour pour le chocolat, et puis ça va s'effondrer, parce que c'est comme tout le reste, c'est conditionné. C'est comme beaucoup de choses, c'est conditionné, et donc ça peut s'effondrer. Mais on va dire que ça fait partie pour moi de la personnalité qui demeure. Tant que ça ne dérange pas, il n'y a aucune raison que ça s'arrête. Tout simplement. Ça veut dire aussi, évidemment, que les attirances demeurent. On n'est pas tous attirés de la même manière par les mêmes personnes. La manière de communiquer demeure. La façon de fonctionner demeure, en général. Etc., etc. Tout ça, ça demeure. Il y a des gens qui sont plus auditifs, d'autres plus visuels, ça demeure. Il y a des gens qui ont une vision plus globale, d'autres plus analytiques, ça demeure. Peut-être moins marqué qu'avant, mais ça demeure. D'accord ? Et puis, il y a cette fameuse pensée « moi ». Lorsque vous dites « je suis triste, je suis en colère, je suis heureux », en fait, c'est toujours deux pensées à coller. « Je », la pensée « je », et la pensée « tristesse » ou « colère » ou « heureux » ou « etc. » D'accord ? Et elles se tiennent la main. C'est-à-dire que vous avez l'idée que « je », heureux, « je », triste, « je », colère. Lorsque le « moi » s'effondre, l'idée d'un « moi » s'effondre, lorsque l'idée d'un « moi » s'effondre, l'idée du « je », l'idée du « je », la pensée « je » s'effondre, il reste tristesse, colère, heureux, etc. Ça fait déjà beaucoup de souffrance en moi.
On peut dire que les pensées n'apparaissent plus à moi, mais en moi, ouais. Présence. Tu vois.
Et à ce moment-là, c'est pas « je suis triste », on peut dire « je suis triste » parce que c'est une facilité langagière. En fait, c'est il y a de la tristesse qui apparaît. Mais comme c'est plus attribué à moi, comme je ne me l'attribue plus, comme je dis pas c'est à moi, c'est moi qui suis triste, il faut que je fasse quelque chose, comment ça se fait que je suis triste, et oui, c'est un tel qui, c'est un... toutes ces histoires-là s'effondrent, elles ne sont plus là, ça n'apparaît plus, ou si elles apparaissent, elles ne sont pas crues. Cette tristesse, elle peut simplement être ressentie, ok, il y a de la tristesse. Mais en fait, la tristesse, c'est doux, elle est pleinement vécue, et comme elle est pleinement vécue, elle ne dure pas. La pensée qui crée cette tristesse est beaucoup plus facilement. Et pareil pour la colère. La colère, c'est fort. Moi, je l'aime en colère. C'est bon. Etc., etc. Il n'y a plus ces jugements portés sur les choses. Et quand il y a jugement, le jugement, il est pareil, il est vécu. C'est pas je juge, oh là là, je ne devrais pas juger, on a mal de dire à monsieur. Non, non, ça appartient, ça devient un jugement.
Il n'y a plus jugement et recherche pour faire quelque chose ou d'abandonner. Tu vois, ça cesse. Parce qu'alors, ça ne nous appartient pas, donc tout peut être là.
Ce qui tombe, c'est le jugement à propos du jugement, la peur à propos de la peur, le rejet du rejet, enfin, du refus, des choses comme ça. Ça s'effondre. Et lorsqu'il y a refus, mais s'il n'y a rien contre. Ok, ben ça refuse. Il n'y a pas de problème avec le refus. Donc il peut entrer, il peut être complètement vécu pleinement. Parce qu'il n'est pas rejeté, il n'est pas refusé. Il n'est pas là, jamais je devrais être comme ça, oh là là. Il faut que je change, tout ça, ça apparaît plus. Et donc ça tourne beaucoup plus vite.
C'est même pas une histoire de volonté. C'est-à-dire que ce qui se passe, c'est que ça n'arrive même plus à la conscience d'avoir une pensée, il faut que ça soit autrement. C'est vide de pensée. C'est-à-dire que la tristesse arrive, on la laisse être. Et n'arrive pas à la conscience, il faut que j'en fasse quelque chose. C'est dans ce sens-là qu'on dit ça.
Même on la laisse être, c'est trop.
C'est que ça n'apparaît même pas.
Elle est laissée être telle qu'elle est. Elle est accueillie de fait sans personne pour l'accueillir. Il n'y a rien pour la mettre à distance.
C'est dans ce sens-là qu'on dit il n'y a personne, tu vois.
Et s'il y a un désir qui vient, c'est pareil. S'il y a une envie qui vient, c'est pareil. Par contre, une chose qui s'effondre, généralement, c'est, en tout cas, dans notre cas, je crois, on peut le dire, c'est le désir pour quelque chose qui n'est pas là. C'est-à-dire que, le désir pour quelque chose qui n'est pas là. C'est-à-dire que, là tout de suite, il y a du chocolat, moi je peux avoir envie de manger du chocolat. Oui. Tu vois ce que je veux dire? Mais s'il n'y a pas de chocolat, bah, même si j'ai envie de chocolat, c'est vraiment pas un problème. Tu vois, mais pour des choses banales comme le chocolat, mais ça pourrait être pour des choses beaucoup plus importantes comme une compagne ou je sais pas quoi, tu vois. Ou une maison, une voiture ou je sais pas quoi. C'est aucune espèce d'importance. Enfin, que ce soit là ou que ce soit pas là, ne peut pas atteindre ce que je suis. et donc n'influe pas sur le bonheur que je suis.
C'est ce qu'on disait avec Catherine tout à l'heure, en fait, il peut y avoir après coup reconnaissance que le manque n'est plus. Tu vois, c'est même pas sur le moment. Après, wow, ça n'est plus là.
Mais pour accéder à cet état d'être, c'est par la méditation, par...
C'est ce que
ça,
tu es.
Ça vient tout seul ou...
C'est ce que vous êtes. Vous êtes cela. Nous sommes tous, sans exception, nous sommes très exactement ce que nous avons toujours cherché. Nous sommes la paix, nous sommes la joie, nous sommes la sérénité, nous sommes le bonheur, nous sommes l'amour, etc., etc., etc.
Oui, mais il suffit de le dire.
Non. Mais ce que je veux souligner, par là, c'est qu'il n'y a pas besoin de chercher à acquérir, tu vois, il n'y a pas besoin de chercher à acquérir le bonheur, à acquérir l'amour, à acquérir, à être plus aimant, tu vois, etc. Il n'y a pas besoin de faire quelque chose pour être plus joyeux. Je suis la joie. C'est-à-dire que là, la démarche change par rapport à toujours ce qu'on a fait jusqu'à présent. Enfin, je ne sais pas, mais moi j'ai toujours fait comme ça avant. Je cherchais comment faire pour être heureux. Que j'appelle ça une compagne, une voiture, une maison, résoudre mes problèmes psycho-émotionnels, etc. Développer l'amour, etc. En fait, ce n'est pas la peine. Donc déjà, numéro un.
On reste comme ça.
Déjà numéro 1.
Il a un petit minimum quand même.
Bien sûr. Regardez, voir que cette recherche que les humains poursuivent depuis des millénaires n'a abouti chez personne. C'est-à-dire numéro 1, voir que bien que depuis des millénaires, l'homme cherche le bonheur à travers des objets extérieurs, fût-ce en devenant plus aimant, par exemple. Ça marche pas.
Oui,
mais... Ça donne pas un bonheur durable. Donc c'est pas la peine de continuer.
Ça, je confirme.
Elle a demandé si elle pouvait y arriver par la méditation. Elle peut quand même y arriver. C'est une porte, la méditation.
Qui pourrait arriver quelque part s'il n'y a pas de moi? Qui pourrait arriver à devenir ce qu'il est s'il l'est déjà? Quel est le chemin entre ici et ici?
Ben, c'est là la question.
C'est un changement de perspective.
Mais justement, il y a des
c'est...
moyens de changer.
Mais bien sûr. Mais non, parce que la personnalité te meurt, celui qui va faire du yoga, il continuera à faire du yoga.
Non, j'en ai plus le mouvement, là.
Mais parce qu'à un moment donné, ça s'arrête. Mais c'est comme les jeux. Hein, quand t'es petit, tu joues à la poupée, puis tu joues à l'institutrice, puis après, tu joues avec papa, maman, pour de vrai, quoi. Tu vois ce que je... C'est des jeux, et quand un jeu, il n'y en a plus besoin, il s'arrête tout seul, il n'y a pas besoin de faire des efforts.
Mais oui, mais ça ne donne pas une réponse. La réponse...
Vous voulez un élément de réponse?
Oui, c'est le titre du
là livre. Maintenant, tout de suite. Essaye d'arrêter d'être.
Non, je peux laisser être à la rigueur.
Essaye d'arrêter d'être. Tu peux ou tu peux pas? Tu y arrives ou tu n'y arrives pas?
Non.
Tu n'y arrives pas?
Non.
Regarde cela qui ne peut pas arrêter d'être.
Qu'est-ce que ça veut dire regarder dans ce cas-là?
Ah, c'est pas avec les yeux physiques, c'est...
Non, mais je comprends bien, mais...
Alors, être avec, tu dis, ça peut pas arrêter d'être. Je peux pas arrêter d'être. D'accord? Ça veut dire que ça sait. Il y a quelque part en toi quelque chose qui sait que ça peut pas arrêter d'être. Mm-hmm. C'est quoi? C'est comment? Regarde. Sois avec. Regardez, c'est vous qui vient souvent ici, mais vous pouvez le changer par écouter, par être avec, par prendre conscience, par se tourner vers, par je me fiche des mots, hein. Prenez le mot qui vous convient. Si regardez ne convient pas, changez-le tout de suite. Il y a quelque chose qui ne peut pas arrêter d'être. Qu'est-ce que c'est? C'est comment?
Bon, moi, j'entends mon cœur quand je fais ça. J'entends juste le cœur d'être. Oui. Ça peut paraître l'être parce que ça vit. Voilà.
Remonte en amont de ça encore. Viens encore en amont de ça. Viens encore en amont de ça.
Tu vois l'énergie peut-être.
Non, ça c'est trop conceptuel. C'est trop conceptuel. Je ne peux pas arrêter d'être parce qu'il y a le cœur qui bat, il y a la vie, c'est trop parce que c'est déjà mental.
C'est difficile à définir parce qu'il n'y a pas de, pas de mental.
Non, parce que, là. Juste regarde, est-ce que ça peut arrêter d'être? Est-ce que tu peux arrêter d'être?
Tout est oui ou non? Ce qu'on entend par être.
Oh, c'est clair pour tout le monde. Alors on va le prendre sur notre. On va le prendre autrement. Vous êtes là, vous sentez votre corps. Vous êtes conscient que vous ressentez votre corps. Et vous êtes conscient du fait que vous êtes conscient que vous ressentez votre corps. Qu'est-ce qui est conscient du fait que vous êtes conscient de ressentir? Regarde. Reste avec ça. Je suis conscient d'être conscient. Qu'est-ce qui est conscient d'être conscient?
Une conscience.
Juste rester avec ça. Qu'est-ce qui est conscient d'être conscient? Vous entendez mes paroles. Vous ressentez votre corps. Vous ressentez le calme de la pièce. Qu'est-ce qui constate tout ça?
Rien.
Ah, c'est constaté. Qu'est-ce qui le constate?
Tu vois le silence.
Oui, tu peux appeler le silence. Il y a quelque chose.
Quelque chose qui se dilate.
Qui donne une impression de dilatation, de volume.
Une conscience qui englobe peut-être.
Une conscience qui englobe, peu importe les mots, je ne vous demande pas de mettre des mots dessus, mais de rester avec, de constater qu'il y a la merde, il y a quelque chose là, mince quoi. Et est-ce que ça arrête d'être conscient? Est-ce que ça arrête de constater que j'en ai conscience ou non? Est-ce que ça peut arrêter d'être? Non. Que j'en ai conscience ou non, ça ne peut pas arrêter d'être. Que j'en ai conscience, que cet organisme en ait conscience ou non, ça ne peut pas arrêter d'être. Que cet organisme en ait conscience ou non, ça constate. Que cet organisme en ait conscience ou non, c'est conscient d'être conscient. Et cela qui est conscient d'être conscient, cela qui ne peut pas ne pas être, cela qui constate tout ce qui se passe, est-il affecté par ce qui se passe? Est-ce qu'il disparaît et apparaît? Est-ce qu'il a l'idée d'un moi, auteur? Est-ce qu'il a l'idée d'un âge? D'un sexe? Est-ce qu'il a l'idée d'un manque? D'un besoin de contrôle? De séparation, tout ça s'effondre. C'est clair? Est-ce que c'est tout le temps là? Ou est-ce que ça va et vient?
Ça paraît disparaître, ça apparaît comme pouvant disparaître, mais quand on le retrouve, on le trouve intact. Comme si ça n'avait pas bougé du tout.
Parce que ça n'a jamais bougé, simplement c'est la conscience que j'en ai qui varie. Mais c'est tout le temps là. C'est clair pour toi, ça?
Oui.
C'est tout le temps là que j'en ai conscience ou non. Alors, qu'est-ce que je suis le plus? Les pensées qui vont et viennent, les gestes qui vont et viennent, les actes, les choix qui vont et viennent, les émotions qui vont et viennent, ou cela qui est tout le temps là et qui ne change jamais? Parler de retournement, de changement de perspective.
Un
regard qui se relâche et qui du coup englobe plus de choses. Peu importe l'expression, l'image qu'on en a, tu vois. Peu importe.
J'ai une petite question.
Vas-y, vas-y.
Dans cette démarche, où le moi se résorbe, ce qu'on appelle communément la réalité, qui continue de vivre partout autour, perd un peu de sa substance. Et je finis par me dire, il faut que j'appuie plutôt d'un côté que de l'autre, quoi. Donc, il y a une forme de désintérêt, il peut y avoir une forme de désintérêt vis-à-vis de cette réalité commune, quoi. Et ce qui se fait, c'est que, comme j'ai plutôt une nature un peu distraite, etc., j'ai des phases où je suis vachement distrait. Je me cogne, je dis des choses, je suis pire qu'avant.
Pareil.
C'est normal de faire.
Merci.
Et en même temps,
ça arrive.
Et en même temps, il y a d'autres choses. Truc qui colle justement très bien et on revient à la réalité, il s'occupe de la réalité.
Alors, pour moi, la première étape, c'est vraiment réaliser qu'il n'y a pas de moi. La seconde étape, c'est réaliser qu'il n'y a pas de monde, que ce monde est illusoire.
Ouais, mais.
Il n'y a rien en fait.
Mais tout à coup, on est en voiture, quoi.
C'est
alors, il y a quelque chose à faire là.
En fait, je parlais tout à l'heure.
J'ai pas la réponse par rapport à ça.
Il y a quelque chose de différent qu'à la distraction qu'il peut y avoir, ouais. C'est pas ça la présence quelque part. La distraction, ouais. ça fait partie du corps mental et ça reste.
Oui.
Tu vois, je ferai une distraction, je sais pas après toi, hein, mais ou pas. Oui, ou pas.
La distraction, c'est construit, c'est.
Oui, voilà.
Oui, là, c'est la pensée qui me rattrape quand je le vois.
Oui.
Et je suis dans les nuages, quoi. Mmh. Entre deux ou à côté.
Voilà, mais s'il n'y avait pas de pensée.
Pardon.
S'il n'y avait plus de pensée. Enfin, ou s'il y a pensée.
Oui, c'est ça.
Il n'y avait plus cet abstrait.
Probablement, c'est ça. C'est que je suis rattrapé par mes pensées sans le voir.
Ça, c'est intéressant, en tout cas. Regardez, je ne connais pas la réponse à cette question par rapport à la distraction. J'en sais rien. Ce que je sais, c'est que je vois des gens qui ont réalisé et parfois, ils ne font plus rien qu'à les voir, même quand je ne suis pas dans la voiture. Et pourtant, ils n'ont pas d'accident, par contre.
Oui.
J'en connais une, pour faire 100 km, ce qui, 80 km, ce qui prend normalement une heure, parce qu'il y a beaucoup d'autoroutes, elle peut mettre 2h30, 3h, parce qu'elle se perd.
Même avec ah voilà, moi aussi, il y a des limitations spatiales.
Même avec un GPS qui tourne à gauche, ça va tourner à droite. Moi, c'est des trucs que je ne suis pas rêvé, quoi. Mais je ne sais pas si ça. Peut-être bien qu'elle a toujours été comme ça, j'en sais rien. Moi, je vois ce que je veux dire. Je ne sais pas. Ce qui est sûr, c'est que dans la distraction, il y a souvent une composante conditionnée par les expériences, par tout ça. Parce et là-dessus, il y a forcément un regard à porter, tu vois, qui va faire que au moins une partie de la distraction va s'effondrer. Quoi.
Oui. Oui, les vidéos que j'ai à faire, c'est de voir que je suis distrait et pas me dire que je suis encore distrait.
Oui, mais c'est amusant d'être distrait.
Pardon ?
C'est amusant d'être distrait.
Oui, c'est vrai.
Il y a un côté, il y a en tout cas une. Dans ce que tu dis, je ressens quand même qu'il y a une. Comment on dit ? Une. Je ne sais pas le mot.
Culpabilité.
Non. Il y a une attirance, il y a une. Comment on appelle ça ? Quand on a le goût pour quelque chose.
Une appétence.
Une attraction, une appétence pour la distraction. Enfin, disons quelque chose comme ça. C'est pas le bon mot, mais quelque chose comme ça.
Ouais.
Il y a.
Oui.
La construction, ce corps mental tel qu'il est construit aujourd'hui, quelque part aime être distrait. Tu vois, comme il y en a qui aiment être pris par des pensées, et puis réfléchir, et puis tu vois.
Voilà.
Il y en a qui aiment. Ou boire, ou tu vois, peu importe. Ouais. On a des addictions comme ça. Une forme d'addiction.
Pardon ?
C'est une forme d'addiction. En fait, si vous voulez le.
Oui, non, mais je comprends bien ça.
On pourrait dire que. Même si Catherine veut nier qu'elle ressent ce que peuvent vivre les autres, qu'elle ressent parfois ce que vivent les autres, moi je ne nierai pas pour ce qui me concerne. On pourrait dire que. L'être-té aime ou tombe amoureuse des phénomènes. Un peu comme nous, on est scotché devant un film. Un peu comme nous, on est scotché par un film. On aime aller au cinéma. Imaginez, vous allez au cinéma juste pour un écran blanc. Vous n'allez pas payer à l'entrée. Vous voyez ce que je veux dire? On aime les histoires. Ça aime jouer. Ça aime jouer à être distrait. Ça aime jouer à tomber amoureux. Ça aime jouer à tout ce qu'on peut imaginer. Même les histoires tristes, ça aime.
Oui. Mais ma tendance, ça serait plutôt de. Plutôt que de. Enfin, pour l'instant, comme ça, de jouer avec ce qui arrive, quoi.
Mais c'est ce que tu fais. C'est ce que l'organisme fait, t'inquiète pas.
De toute façon.
Bien évidemment. Ouais. Notre drame, c'est que vers l'âge de 7 ans, on a commencé à jouer, à être sérieux. Et pour être vraiment joué, être sérieux, il faut se prendre au sérieux. Il faut y croire et oublier qu'on joue. Sinon, on ne joue pas vraiment sérieusement. Et là, c'est le commencement des gros ennuis. Parce qu'avant, l'enfant, il joue, et il joue. Il sait que c'est un jeu. Pan, 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 t'es mort! Oh, il s'adore. Tu vois?
Oui, oui.
Après, c'est PAM! Il est mort pour de vrai, l'autre en face. C'est beaucoup moins drôle. Mais là, maintenant, je suis sérieux parce que j'ai des convictions à défendre. Je défends mes convictions. Je joue sérieusement, tu vois. Mais c'est encore un jeu. Sauf qu'on ne veut plus comme un jeu. Mmh. Là, c'est presque un jeu dans un mécanisme. C'est plus un jeu enfantin. C'est encore des jeux enfantins.
Et à la fois, tu peux constater qu'il y a des jeux qui cessent.
Oui. Mmh. Qui tombent de soi, quoi.
Qui tombent.
Mais si, donc, la piste de l'addiction, c'est bien, ça me parle. donc, s'il y aurait un manque, parlez du manque, s'il y a addiction.
Mais non, il y a plaisir.
Il y a plaisir. Oui, c'est ça. je me roule là-dedans.
C'est quelque chose de connu.
Comment?
C'est quelque chose de connu.
De connu par moi?
Oui, par le corps.
Par l'organisme.
Par l'organisme.
Voilà.
Et dans lequel il trouve une satisfaction. Ça peut faire croire que tu n'aimes pas être simplement la tête vide ou tu sais pas où. Tu aimes ça.
Eh bien, je l'adore. Oui.
Cherche pas plus loin. Pourquoi ça s'arrêterait? Pourquoi voudrais-tu arrêter quelque chose que tu aimes? L'accrochage par rapport à ça, c'est rien. Ah, après, il peut y avoir la culpabilité.
Voilà, il y a l'éducation judéo-chrétienne, etc. Qui te fait bien les choses, habille-toi, fais attention à ce que tu fais.
Alors, toi, c'est très chouette, ça, parce que. On vit une vie avec des contraintes. Tu vois, ouais. Contrainte, c'est-à-dire que ça nous contraint, ça nous serre, c'est désagréable. Alors on s'échappe par la distraction, deuxième couche.
Ouais.
Mais quand même on veut être un bon petit, on va se sentir coupable de s'échapper par la distraction. Troisième couche. On ne connaît plus ces petits, mais ce qu'il y a de sûr, c'est que c'est pas agréable. Donc si on enlève la troisième couche, la culpabilité judéo-chrétienne, par exemple, on va pouvoir ressentir le plaisir d'être distrait, et la grande joie d'être distrait. Puis on va voir qu'on n'en a pas besoin, parce qu'on peut être joyeux sans ça, et ça va s'effondrer. Et on va tomber sur la première couche de contrainte, dire, mais c'est quoi ces bêtises? Tu vois, petit vélo, ça s'effondre, il reste quoi? La nature naturelle de cet organisme sain. La nature d'enfant. C'est ça, où ce livre devient petit enfant, tu vois, c'est cette simplicité, ce naturel, cette aisance, ce jeu naturel, cet amour naturel pour les choses, les gens, cette curiosité naturelle, ces talents naturels. Au niveau de l'organisme, avec le cœur qui frémit longtemps, parce que ça ne doit pas être autrement. Et ça, c'est l'autre versant du même regard. C'est que le regard, d'un côté, il a besoin de se retourner vers lui-même, vers sa source dans un second temps, mais déjà vers lui-même. Qu'est-ce qu'il constate? Qu'est-ce qui est conscient d'être conscient? Qu'est-ce qui ne peut pas ne pas être? Et il est aussi de besoin qu'il se tourne vers ses mécanismes, vers tous ces phénomènes. Non pas pour essayer de les modifier, mais juste pour les voir se dérouler. Mais comment ça se passe, ça? Comment ça fonctionne exactement? Et toi, là, c'est un petit peu ce qu'on vient de faire, en fait. On regarde les distractions et qu'est-ce qu'on voit? C'est vachement bien d'être distrait. Oui, mais je me sens coupable. Toi, ça émerge tout seul. Il n'y a pas besoin d'aller chercher. Ça émerge tout seul. Tu peux regarder la culpabilité. Comment elle vit dans le corps? Qu'est-ce que ça crée dans le corps? Comme sensation physique très concrète. Vous portez le regard simplement sur ces sensations physiques. Et ça va s'effondrer.
Pas facile, hein, toujours, d'avoir la transcription physique. Hein. Oui. Quelquefois, c'est évident.
Oui.
À vivre, oui. Quelquefois. Ou alors, ça se résorbe tout de suite, le seul fait que ça soit vu.
Exact.
Et ça, alors, est-ce que c'est...
Mais qu'est-ce qu'il y a de la culpabilité, hein?
Alors, oui.
Là, tout de suite.
Comment?
Là, tout de suite. Qu'est-ce qu'il reste de la culpabilité?
Bah, rien.
Voilà, c'est tout. Et bon, ça n'allait plus loin. Ouais. Ça s'est effondré. Ça ne veut pas dire que ça ne reviendra jamais. Mais ça veut dire que simplement d'avoir porté le regard dessus, elle a été vue comme sans objet. Donc elle s'est faite.
C'est-à-dire qu'il faut relire tout notre mode de fonctionnement avec un nouveau regard, ou l'observer, le regarder.
Il faut relire tout notre mode de fonctionnement. Et si on dit quoi, qui est-ce qui va faire ça? En l'absence de moi, d'auteur, de quelqu'un qui puisse faire quoi que ce soit de lui-même. Parce que tu vois, tout de suite, tu sens, oh là là, si tu vois le boulot. Tout de suite, il y a prise. Tout de suite, il y a prise. C'est la fin d'Hérico. C'est dans l'autre sens. C'est dans l'autre sens. C'est simple. Dès qu'il y a tension, c'est pas dans ce sens-là. Dès qu'il y a contraction, dès qu'il y a prise, c'est pas le bon sens. Stop! Stop! S'il y avait une chose à faire, c'est ça, stop. Si! C'est-à-dire, oh ben alors ça veut dire qu'il faut que j'aurai toute mon histoire. Stop! Dépose la pensée, qu'est-ce qui reste? Dépose cette pensée, qu'est-ce qui reste?
Oui.
C'est déjà tranquille. Qu'est-ce qu'il y a à faire quand c'est déjà tranquille? C'est ce que je cherche.
Mais là c'est facile, on est entre nous, on a un moment en retraite, encore plus facile dans tout ce que tu veux, mais dans ton quotidien.
Ah ouais. Ben, dans le quotidien.
La méditation.
Bah oui, tu vas rester dans le quotidien, c'est pas bien.
Moi, je dirais que c'est un exercice de tout instant.
Et ce que tu vois, ce que tu viens de dire, c'est une pensée. C'est plutôt du vécu. Regarde, cherche ça à l'instant où je te le dis.
Oui, c'est pas cette idée-là, bien sûr. Voilà. Oui. Et puis j'y crois parce que je la vis. Mais...
Voilà, et ça crée un vécu. Mais oui, mais imagine que tu puisses pas penser. Oui, mais là c'est facile parce qu'on est ensemble, etc. Imagine que cette pensée n'émerge pas, ne puisse pas émerger. Le vécu qui l'accompagne pourrait pas être là. Et ce serait tout de suite bien pour toi. Imagine que cette pensée émerge, mais que tu la crois pas. Ça serait. Ce serait tranquille.
Là,
oui. Mais je tiens à la croyance.
Je vais m'en débarrasser, mais j'y arrive pas.
Mais n'essaye pas. C'est trop d'efforts. J'essaye de me débarrasser d'une pensée. J'y arrive pas. C'est pas la peine. Il y a la pensée. C'est plus facile ensemble.
Donc, dans certaines circonstances.
Dans certaines circonstances.
Mais la croire, c'est penser que ce qui a été dit, ce qui est monté là, est vrai. Que cette pensée, ces mots, les uns côté des autres, la substance des mots qui ont émergé est vraie.
C'est ça, croire la poussée. Et alors, c'est partir avec l'histoire, tu vois. Ça rentre dans une histoire.
Et ça crée la souffrance.
Non, mais la difficulté que j'ai, c'est dans mon quotidien, si tu veux, de ressentir ça. Je ne le ressens jamais dans le quotidien. C'est toujours dans des moments à part.
C'est pas vrai.
C'est ça. Non.
Est-ce que c'est vrai?
Là, comme ça, j'aurais été bien.
Est-ce que c'est vrai que jamais dans ton quotidien, tu n'as ressorti, tu n'as ressenti dans le moment de paix et de tranquillité?
Oui, c'est pas vrai. Comme ça, c'est pas vrai.
Eh ben alors.
Mais moi j'ai envie de te dire, c'est pas à ressentir, c'est à regarder, c'est de la vigilance instant après instant sur ce qui émerge en soi, là, une pensée, une émotion, une sensation, tu vois, c'est de l'attention en fait à ce qui est là. Peut-être.
Mais juste, regarde, analyse. Tu vois, ne crois pas à ce qu'on dit sur parole. Analyse,
non,
regarde.
C'est pour ça que
tu vois, tu dis, ce genre de tranquillité, on va dire, n'arrive que dans certaines circonstances, ouais, avec facile, d'autres. C'est plus facile. Ah, t'as dit, c'est plus pareil que ça n'arrive que. C'est plus facile. Après, on va essayer de lui dire, t'as qu'à venir à tous les séminaires. Est-ce que tu peux mettre ta main coupée que cette pensée est vraie?
Non. Pas totalement.
Donc, est-ce que ça vaut le coup de créer une tension corporelle, psycho-émotionnelle, en croyant une pensée qui n'est pas forcément vraie, même s'il n'y a qu'une chance sur un million qu'elle soit fausse? S'il y a une chance pour qu'elle soit fausse, c'est qu'en réalité, tu ne sais pas si elle est vraie. Si tu n'es pas prête à mettre ta main à couper, c'est que tu n'es pas sûr. Et si tu n'es pas sûr, c'est que tu ne sais pas. Et si tu ne sais pas, pourquoi créer une tension? Pourquoi croire en quelque chose que tu ne sais pas être vrai à 100%? Quel en est l'intérêt?
Non, mais je vais
Mais regarde juste cette pensée-là. Commence par juste cette pensée que tu viens de sortir.
Et si on la prend dans l'autre sens, et si ce n'était pas cette pensée juste-là qui t'empêche de voir là directement dans l'instant, de réaliser? C'est parce que tu crois cette pensée que ça t'empêche de réaliser.
Il est encore plus radical que moi.
La raison, c'est une pensée.
Non, c'est une évidence. C'est une évidence. Pour moi, c'est une évidence. Oui, c'est pas une pensée.
Ah, oui. Ça résonne juste, c'est ça ce qu'il faut dire.
C'est une évidence.
C'est que... Il le traduit en mots comme ça en disant elle a raison, mais c'est pas.
Mais on
c'est
va
pas
continuer.
De la même façon.
Bien sûr, on va continuer à employer les mots du langage courant, etc. Mais si vous voulez, Marion et moi, ici, on n'est pas en train de vous vendre quelque chose auquel on croit. On est en train de vous décrire ce qu'on vit, ce qui est perçu, ce qui est évident ici. C'est pas la même chose. Là, on va vous chercher, c'est à partir de là où nous on est, c'est pas une construction mentale.
J'ai trop l'impression qu'on voit, qu'on ne croit plus. Mais c'est plutôt. Enfin, il me semble que. On est, ah, ben, ça, j'ai pas réagi comme d'habitude. Finalement, ma pensée, j'y crois plus. Et on ne voit pas qu'on ne croit plus. C'est une fois qu'on a vécu un truc en moi.
Donner un exemple, tu diras si c'est ça. Autrefois, j'étais très sensible au temps qu'il faisait. C'est une des raisons pour lesquelles je suis allé habiter dans le sud de la France. Je préfère vraiment le soleil, le beau temps, la mer, etc. Et il y a deux ans, après donc, la réanimation chez moi. Vraiment dans le sud, l'hiver a été pourri, chez pourri, il pleuvait tous les jours ou presque. Et moi, tous les matins, je me réveillais en me disant « Oh, il pleut encore !» Ça me faisait rire. Puis j'ai rencontré des gens qui me disaient « Oh là là, il y en a marre de cette pluie et tout. » Il a fallu plus de 15 jours que les gens répètent tous les jours « Là, il y en a marre de cette pluie. » Moi, je leur réponds « Non, non, moi, j'aime bien. » C'est seulement au bout de 15 jours que j'ai réalisé « Ah tiens, mon rapport au temps qu'il fait a changé. » C'est-à-dire que la pensée « Il est important pour moi qu'il fasse beau et j'aime le beau temps, etc. » s'est effondré sans que je le voie. C'est ça dont tu parles ? Oui, oui, ça arrive souvent.
Il y a ça et à la fois il y a vision et perception intime de ce qu'on est véritablement aussi. Tu vois ? Là.
Tu vois, il y a l'évidence que je ne suis pas ce que je croyais être. C'est évident, c'est une folie de croire qu'on... Je peux plus dire cette phrase, mais... Avant, je croyais que j'étais quelque chose, et je ne suis pas ce que je croyais être, et croire que j'arrive, que je... croire... Avoir cru que j'étais ça, c'est la folie. C'est vraiment de la folie. Ça n'a aucun sens, vu d'ici, aujourd'hui. Et pourtant, je sais si j'y croyais. Et il est évident que je ne suis pas ce que j'avais cru être. Et j'avais cru être moi.
Sans pas perdu,
c'est naturel. Non. Alors, il n'y a même pas de mot fort, c'est naturel.
On perd des repères, mais on retrouve ce qu'on est.
Mais
on ne
sait pas qui on était, puisque déjà.
Mais on s'en fiche, ça n'a pas d'importance. Est-ce qu'un enfant se demande qui il est ? Non. Est-ce qu'il est malheureux pour autant ? On n'a pas besoin de savoir ce qu'on est. On l'est.
C'est plus qui on est, mais c'est pas.
Et à la fois, c'est intéressant ce que tu dis, parce que souvent, on a envie de tout contrôler, de savoir, etc. Et donc, on a peur d'y arriver. Mais une fois que c'est là, le paradoxe, c'est qu'on est en pleine confiance alors qu'on ne sait rien. C'est tout le paradoxe.
Il y a énormément de peur qui s'effondre. Énormément de peur qui s'effondre. Et quand il y a de la peur, c'est marrant. C'est drôle, d'avoir peur. Pas quand il n'y a pas de réaction à la peur. Il n'y a plus de souffrance qu'il n'y a pas de réaction à ce qui apparaît.
Si tu veux, ce mot-là, il est vidé de sa substance, celle qu'on mettait avant. De nos peurs, tu vois. Donc, ça n'a plus la même signification.
Ça donne beaucoup de jour, en fait. Le fait d'accueillir comme ça les choses.
C'est-à-dire que nous sommes cet accueil, c'est pas moi qui accueille. Tu vois ? L'accueil est naturel, spontané. En tant que ce que je suis. Ce qui ne veut pas dire que l'organisme mental, lui, peut encore avoir des portions d'ego qui ne sont pas effondrées. Donc parfois, ça accueille fort. Tu vois ? L'organisme, lui, peut ne pas accueillir certaines choses. Mais ce qui est, lui, il accueille tout, y compris le non-accueil. Tu vois ? Donc c'est cool, d'un côté c'est vraiment cool. Ça ne veut pas dire qu'on va tous s'autoriser et puis que bon, je ne t'accueille pas. Non, ça tient, il n'y a pas d'accueil là. Ah tiens, c'est marrant, tiens, qu'est-ce qui se passe ? Et à partir du moment où, quoi que ce soit qui arrive, qui apparaisse, dès que ça rentre là au sein de ce que je suis, ça donne une vision, c'est fini, 3 secondes. Allez. 3 secondes. C'est juste pour ce que c'est, ça s'effondre, c'est vu comme sans consistance, sans substance.
Un petit peu, est-ce que ça ressemble un peu à une sensation physique sur laquelle qu'on regarde, enfin, comme vous dites, hein, qu'on laisse être, et qui finalement a une douleur physique, par exemple, et qui va disparaître si on la regarde à sa place. Est-ce que ça peut se transposer dans ce...
C'est-à-dire que tout ce qui peut émerger au niveau psycho-émotionnel a une correspondance dans le corps. La tristesse, la colère, le rejet, etc. Lorsque le regard se porte sur les sensations physiques pures liées à cet événement psycho-émotionnel, tout se délite, tout se défait de soi-même.
Mais ça me paraît que la même chose que n'importe quoi qui arrive et qu'on regarde.
Oui. J'aurais un petit bémol pour la douleur. Je ne suis pas certain que regarder la douleur, être avec la douleur suffise à ce qu'elle disparaisse. Par contre, il n'y a pas de réaction à la douleur. Il n'y a pas d'histoire qui vient s'ajouter. L'histoire s'effondre, donc il y a déjà moins mal, parce que je ne souffre pas d'avoir mal, il y a de la douleur. Et il peut arriver que la douleur elle-même devienne amusante et tellement généreuse.
Moi aussi. Ça s'est transformé en quelque chose.
La douleur était toujours là.
Oui, c'était là, mais c'était.
Et simultanément, c'était étonnant, amusant et merveilleux.
Il ne faut pas lutter contre la douleur.
Mais il ne faut pas lutter contre la douleur. Qui est-ce qui va faire ça?
Non, mais juste se détacher.
Mais qui va se détacher?
Je vis cette douleur.
Et même être avec toi, c'est attention d'où ça vient ce qui est dit. Tu vois? Attention à la récupération du mental. Parce qu'on est obligé de prendre des mots, tu vois, mais les mots trompent tout le temps. Même il faut être avec, c'est trop. Parce que dès l'instant où ça s'appuie sur l'idée qu'il y a un moi qui va faire quelque chose, c'est fini. C'est récupéré. Et c'est la mise en place d'une stratégie qui va être vouée à l'échec tôt ou tard. Donc on pourrait dire la question est d'être avec. On pourrait dire, mais dans cette phrase, il n'y a pas un moi qui va être avec. Il y a être avec ou il n'y a pas être avec. Il y a regard ou il n'y a pas regard. Il y a écoute ou il n'y a pas écoute. Tu vois, ce serait plus justement dit. Mais on parle tellement vite que. Voilà. Mais surtout attention à ça, que ce ne soit pas récupéré par l'idée d'un moi, parce que là, ça, c'est la fin du niveau. Voilà. Ça devient l'enfer. Je te rends compte de ce que je vais avoir à faire. Hein. J'en ai pour 10 vies, 100 vies, 1000 vies. On ne sait plus quoi. Parce qu'en plus. Que ça rajoute, hein. C'est pas la peine. Heureusement. On pourrait dire que l'effort, c'est revenir. Revenir. C'est pas revenir, c'est revenir à l'être-té, revenir à cela qui ne peut pas ne pas être. Revenir à cela qui constate, revenir à conscience d'être conscient. Revenir avec cette douceur, délicatesse, amour, tendresse, sourire. Ah tiens, je suis encore laissé prendre par les choses. Ça, c'est à quoi laisser prendre par les choses. On va dire je, parce que c'est à l'habitude. Mais sans penser que je me suis laissé prendre. Ah, il faut que je lui dise. Ah, mais comment il faut que je me prête? Ah, un peu de pranayama, un peu de yoga, un peu de ci, un peu de ça. Pas la peine. Je dis pas qu'il faut pas le faire. C'est que dès que c'est une stratégie, tôt ou tard, c'est vraiment un échec. Mais si l'organisme intel est attiré par le yoga, mais faites du yoga. Ici, il est attiré par les bains de mer, allez-vous baigner en mer. Ça, c'est être avec. S'il n'y a pas de bois, qui pourrait bien les gérer? Ça va se gérer tout seul, comme tout le reste. Comme ça, c'est toujours géré. Des pensées vont apparaître, des actes vont se poser, les choix vont se faire. Comme avant.
Est-ce qu'on doit éviter d'avoir des envies?
Sûrement pas encore.
Non.
Mais qui pourrait bien éviter d'avoir des envies s'il n'y a pas de moi? Il y a une envie, il y a une envie. Il n'y a pas d'envie, il n'y a pas d'envie. Il y a une envie, puis elle disparaît, il y a une envie, puis elle disparaît. Il n'y a pas d'envie, puis il y en a une qui apparaît, il n'y a pas d'envie, puis il y en a une qui apparaît. C'est quoi le problème? C'est juste comme ça arrive.
Comment est-ce que ça devient une addiction?
Ça
devient
une addiction?
Ben oui,
mais
pour un
alcoolique,
c'est
pas
trop,
fâche. Je ne sais pas. Mais la question n'est pas pour un alcoolique, comment ça devient? Mais maintenant, pose dans l'autre sens, puisque tu parles de l'alcoolisme. Est-ce que tu crois vraiment que les alcooliques sont alcooliques par choix?
Non.
Que c'est parce qu'ils ont un moi qui ont décidé je vais devenir alcoolique?
Non.
Alors, en quoi enlever l'idée d'un moi va-t-il aggraver l'alcoolisme? Et est-ce que par hasard, si on enlevait l'idée d'un moi, et que donc ils se sentaient plus du tout coupables de ce qui leur arrive, ça ne pourrait pas par hasard aller mieux? Et si tous ceux autour d'eux arrêtaient de leur dire « Il faut que tu arrêtes de boire, c'est mal !» et réalisaient « Mais il ne peut rien, le pauvre !» Ce ne serait pas plus léger pour tout le monde? Alors peut-être qu'on pourrait après s'occuper du vrai problème. C'est-à-dire que, en fait, si vous voulez, cette idée d'un moi vient tout aggraver. C'est simple. Par exemple, oui, mais pas seulement. La peur aussi, la peur. On a peur de mal faire, on a peur de se tromper. Et puis si c'est moi qui suis alcoolique, alors je dois me soigner. Il faut que je trouve ce qui se passe. Il faut que je fasse l'effort de. Et si c'est toi qui es alcoolique, alors tu dois faire l'effort de. Et la pression, est-ce qu'elle est utile? Pardon?
Tu ne dois pas conduire.
Ça, c'est ça. Quand tu as vu, tu ne conduis pas, c'est autre chose, c'est juste.
Mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a rien qui est mis en place pour éviter des faits. Tu vois?
Ça ne veut pas dire que tu n'es pas responsable et que tout est autorisé. Ce n'est pas un blanc-seing. C'est pas, oh, il n'y a pas de problème, alors je peux faire tout ce que je veux. Ça, c'est récupérer l'idée. Et qu'est-ce qu'il la récupère? C'est l'idée d'un moi. Il n'y a pas moi, je peux faire tout ce que je veux. Tu vois? C'est pas ça du tout. Je suis la responsabilité même, comme je suis le bonheur même. Tu vois, on pourrait dire. C'est pareil. Il n'y a pas de séparation entre ce que je suis et la notion de responsabilité. Il n'y en a pas. Il est impossible ici de ne pas prendre responsabilité de ce qui se passe en face de moi. C'est juste pas possible. Parce que tous les écrans de haut, ça ne me regarde pas, c'est pas mon affaire, ça c'est tombé. Déjà. Après, l'acte qui sera posé, j'en ai aucune idée.
Non, je dis juste, on revient à l'état naturel. Quand tu es né, tu n'es pas né avec un je dans la tête qui arrivait, tu vois. C'est quelque chose qu'on t'a donné. C'est revenir à cet état naturel.
C'est encore, pas seulement ce que vous avez donné, mais dans ce que je perçois, il y a plusieurs choses qui font que l'idée d'un moi apparaît. Les sensations et les perceptions dans le corps sont fortes et déjà cristallisent l'idée d'un corps et d'être ce corps. Et puis après, il y a le stade du miroir, où l'enfant se voit et tout d'un coup il se reconnaît comme étant un être de corps, tu vois, avec un corps limité. Et puis après, c'est toi qui l'as fait attention, etc. Tout ça, enfin, dans ce que je perçois, moi, il y a toutes ces choses-là. Et je ne dis pas que je vois tout. Par rapport à ça. On croit tout ça. Et vous savez, par rapport à ça, ce que je trouve très chouette, c'est la comparaison avec le rêve. On croit ce monde réel. La nuit, lorsqu'on rêve, le monde du rêve apparaît d'un coup. Le rêve se déroule et on y croit. Et à la fin du rêve, le monde du rêve disparaît d'un coup. Et on se réveille et on dit « c'était qu'un rêve ». C'est réel un rêve. Il y a réellement des rêves. Mais c'est pas réel un rêve. Quand on se réveille, on sait qu'en réalité, il ne s'est rien passé. Et pourtant, on a réellement eu peur, on a réellement aimé, on a réellement vécu ce qu'il y avait dans le rêve. Et pourtant, il n'y avait rien. Ça dormait dans le lit. Cette vie, c'est pareil. Ce monde, cet univers, c'est pareil. C'est un seul et même rêve. Le rêve de ce qui est éveillé, heureusement. Le rêve de ce qui est. Qui se manifeste où ? Dans vos rêves, vous apparaissez dans vos rêves. Et il y a d'autres personnages qui apparaissent dans vos rêves. Il peut y avoir 50 personnes, 2000 personnes dans vos rêves. Il peut y avoir même des animaux, etc. C'est un vrai monde de rêve. Et là, c'est pareil. Et dans votre rêve, la nuit, vous pouvez croire que vous êtes vous dans votre rêve. Parfois, vous n'êtes même pas vous, vous êtes quelqu'un d'autre, mais vous croyez que c'est vous. Dans votre rêve, vous êtes en tant que femme, alors vous êtes un homme ou l'inverse, etc. Et ça fonctionne quand même, vous y croyez quand même. Et bien là, c'est pareil. On croit à ce rêve, mais en réalité, il n'y a rien. C'est une apparition, c'est de la conscience.
Oui, mais justement, comme tu parlais des rêves, je voulais te poser la question, qu'est-ce qui nous dit que les rêves sont moins vrais que ce qu'on vit ? Tu vois ?
Ben oui.
Moi, je ne suis pas certaine du tout que les rêves soient un rêve, en fait.
Tu crois que c'est un rêve ?
Ben, pourquoi ça serait plus réel que les rêves ? Oui, je pense que c'est une autre réalité, les rêves. Je ne dis pas que j'ai raison, je dis ce que je pense. Je veux bien ton avis, humblement.
Ben, est-ce que tu es prêt à mettre ta main coupée ?
Ah non, moi j'ai plus de certitude.
Est-ce que c'est utile de croire à cette pensée ? Je crois que les rêves sont une autre réalité.
J'aimerais avoir ton avis.
Non, mais avant tu as dit « je crois que les rêves sont une autre réalité ». C'est ce que tu crois. C'est juste une croyance. Est-elle utile ? Est-elle fonctionnelle ? J'en sais rien, je m'en fiche. C'est ça la différence. Ce que je sais, c'est que vu d'ici, les rêves ne sont pas réels et cette réalité n'est pas réelle. Pas plus que les rêves. On peut dire pas moins, ça t'amuse. Mais tu sais, quand c'est pas réel, c'est pas réel. C'est pas plus ou moins réel, c'est juste pas réel. C'est une réalité relative, pas de définitive. Seul Dieu est. Le reste existe. Seul ce qui est, est. Ce Dieu, je n'aime pas trop. Enfin, je ne suis pas fâché contre le mot, mais souvent, je viens des gens qui rejettent autre chose. Seul ce qui est, est. Le reste existe. Donc, c'est une réalité relative. Tout ce qui peut être perçu n'est pas réel. Tout ce qui peut être connu n'est pas définitivement réel. La seule chose qui est définitivement réelle, qui ne bouge pas, c'est cela qui connaît tout ce qui peut être connu. Et qui lui-même ne peut pas être connu. Sinon, il ne serait pas définitivement réel. Il fait partie du domaine du connu. L'innommable, l'insaisissable, est cependant indubitable. Parce que lorsque tu regardes, qu'est-ce qui connaît tout ce qui peut être connu ? Pas si tu sens, mais ah, il y a quelque chose, on ne peut pas s'en saisir, on ne peut pas rester avec, mais c'est indubitable que ça de réel, définitivement réel. Et tu vois que si tu regardes de ce côté-là, tout le reste. Il n'y a pas besoin de s'en détacher. Hein. Ça se détache tout seul. Ça se délite tout seul.
Ça s'accroche.
Parfois, ça s'accroche. Oui, parce qu'on le tient. Oui.
Il ne faut pas lutter.
Si.
La première réaction, c'est de... Faut pas.
Mais non. Non. Si la première réaction est de leur donner un coup de pied dedans, regarde la réaction pour leur donner un coup de pied dedans. Sinon, elle va continuer. Tu sais, c'est comme un gosse. Imagine, il y a un gosse qui tombe, il se fait mal. Comment il fait quand un gosse tombe, il se fait mal? Il pleure, il va dans les bras de papa ou de maman, selon qui est là. Et puis il pleure, il suce son pouce 3 minutes, et après il retourne jouer. Parfois, maman a envie de le garder un peu dans les bras, parce que mon pauvre petit, il a souffert, il a eu mal et tout. Mais lui, il n'en a rien à faire, c'est fini, il a fini de pleurer, il va jouer. Il retourne jouer. Maintenant, imagine, le même enfant tombe, et puis il vient pour pleurer. On lui donne un coup de pied, il va plus loin. C'est sûr qu'il va faire une crise. C'est pareil. Si tu donnes un coup de pied à quoi que ce soit, tu peux être sûr que ça va revenir plus fort. Et parfois en prenant des chemins de traverse. Tu vois qu'il y a une tendance à rejeter? Regarde la tendance à rejeter. Épouse-la. Regardez la tendance à rejeter. L'épouser. Sans moi non plus. Ça, c'est le changement. Qu'est-ce que tu crains à accueillir le rejet? Ça peut que juste cesser de rejeter. Si tu rejettes le rejet, comment veux-tu que le rejet s'arrête? C'est pas possible. Sentez comme ça c'était.
J'ai une question. Dans cet état, est-ce qu'il y a une fluidité de vie qui s'installe, qui fait qu'à un moment donné, il n'y a plus de fatigue, on va dire d'effort, de sensation d'effort ou de fatigue, ou est-ce qu'il y a fatigue, mais elle est juste là et...
Alors,
difficulté, fatigue, difficulté.
La vie continue, le mouvement de la vie continue, et tout ce qui peut s'y passer. En plus, cela va dépendre des gens, enfin des organismes. Il y en a qui auront plus de problèmes que la fatigue, et d'autres plus de problèmes qu'autre chose, et puis etc. Le message, c'est que peu importe ce que vit cet organisme, il peut être fatigué, tendu, épuisé, ça n'a pas d'importance. Ce que je suis, demeure le même. Ça ne veut pas dire que la fatigue et l'épuisement ne sont pas ressentis. Ça ne veut pas dire qu'on ne va pas aller mettre le corps parce qu'il a besoin de se reposer. Ça veut dire que ce que je suis devient le même. Ça ne veut pas dire qu'il parfois peut y en avoir marre. La dernière fois que ça m'est arrivé, qu'est-ce que ça m'a fait rigoler? Au moment où j'ai dit j'en ai marre, ça s'est mis à rigoler. Parce que c'était bon d'en avoir marre. Mais si je dis, ah là, je dois pas en avoir marre, je suis jamais éveillé, c'est fini, c'est la fin de l'écho, hein, parce que là, tu crées une tension pas possible, tu vois. Et pourquoi j'aurais pas le droit d'en avoir marre? Où est-ce que c'est écrit? Ah si, si, ça peut en avoir marre, c'est comme ça. Mais j'ai pas envie d'arrêter, c'est trop marrant. J'ai pas envie de créer, j'ai pas envie d'arrêter, ça veut rien dire. C'est ce qui apparaît, tu vois. Ne mélangez pas ce que je suis avec tout ce qui apparaît au sein de ce que je suis. Je n'en suis pas séparé. Et ce qui apparaît au sein de ce que je suis, et ce qui apparaît, du verbe apparaître, je veux bien dire ça apparaît, c'est pas franchement réel, et donc ça va disparaître aussi, ça n'a pas d'importance. Enfin, ça peut être très important d'un point de vue existentiel, hein, mais en soi, Ça n'a pas d'importance, ça ne peut pas affecter ce que je suis.
Comment je peux savoir qui je suis?
Tu ne peux pas savoir ce que tu es. Tu ne peux que l'être. Et tu ne peux pas ne pas l'être. Essaye d'arrêter d'être.
Si j'ai des repères pour savoir qui je suis,
tu n'en auras pas.
Ce qui je ne suis pas, c'est l'inverse. Ce qui revient à me dire qui je suis.
Tout ce qui va te définir ne peut pas être ce que tu es. Ce que tu es est sans attribut ou avec tous les attributs.
Est-ce qu'on n'a pas l'impression d'avancer du monde sans repères? Il n'a besoin pas de
son repère. C'est une croyance. Tu n'as pas besoin d'un père, tu me
crois.
Tu n'as pas besoin d'un père.
Pas de feu rouge, pas de feu vert, pas de...
Non, mais ça c'est fonctionnel, ça n'a rien à voir. Le mental fonctionnel, on ne parle pas de ça, ça continue, ça fonctionne. Et un feu rouge m'arrête comme tout le monde, généralement.
Quand tu parles de cancer, ça passe à soi.
Précisément. Il est bon aussi.
Je suis, et c'est pour ça qu'on va réagir. On réagit, etc. Et on se dit, est-ce que ma réaction... Et proportionné, disproportionné,
mais tout cela est mental. Tout cela, à un moment donné, ça peut simplement être déposé. Et alors tu restes avec ce qui est là. Et à un moment donné, une action va se poser. Quelque chose va se faire. Qui ne sera pas mental. Mais par contre, en toi, ça saura que ce que tu es là maintenant, ça se manifeste de telle manière. Et qu'il n'y a aucune possibilité de le juger, d'estimer que ce n'est pas juste, d'estimer que ça devrait, j'aurais dû faire autrement. Tout ça ne pourra pas apparaître. Quoi que ce soit que tu fasses, ce sera la justesse de l'être-té à l'instant T. Et ce sera une certitude absolue. Et ce sera ton repère, si tu veux un repère. Mais ce ne sera pas un repère mental, ce ne sera pas construit. Ce sera une intériorité qui se sera manifestée.
Et ce n'est pas la justesse versus injuste. Il n'y a pas d'opposé. C'est ce qui est là dans l'instant, sans jugement qui est apposé. Après ça.
Mais de même que c'est le bonheur sans contraire, l'amour sans contraire, la joie sans contraire, la sérénité sans contraire, etc. La responsabilité sans contraire. C'est sans contraire tout ça. C'est pour ça que souvent il y a une majuscule. L'amour inconditionnel, c'est l'amour inconditionnel. Ça ne peut pas ne pas aimer. C'est inconditionnel. Il n'y a plus de peur.
Il y a une histoire de survie. J'ai l'impression de ça parce que je me voyais.
Il peut y avoir une histoire de survie, sauf que le fait que cet organe survive ou pas n'a aucune espèce d'importance.
Ah ouais, c'est que je me voyais faire bouffer par un lion et accepter.
C'est comment de se faire bouffer pour un lion? Ça fait craquer les os. Oh, elles sont gicles partout. Fin de l'expérience. Que cet organisme vit, survit, enfin continue à vivre au monde n'a aucune espèce d'importance. Ça change rien à ce que je suis. Ils ont levé des peurs.
on ne se demande même pas si ça a de l'importance ou pas, ça n'arrive pas. Il n'y a pas la question de ça qui arrive à la conscience par rapport au corps.
Ben, ça peut arriver.
C'est pas que ça n'a pas d'importance, c'est que il n'y a personne pour dire ça ou pas. C'est...
Tu es
d'accord avec moi?
Développe,
qui est là après. Parce que quand on dit ça n'a pas d'importance, souvent c'est la personne qui exprime ça. C'est pour ça que moi, ça, je dis pas ça. Ça n'a pas d'importance.
Donc,
c'est pas une question d'importance.
Grave. C'est grave. Pas des sujets rigolades.
Oui. Après, c'est des jeux sur les mots, en fait, parce que
oui.
Je te renvoie à ce mot-là, parce que je sais que ça peut être interprété de cette façon-là.
Ah oui, c'est ça. Comme quand je dis « je m'en fous ».
Voilà.
Oui, mais je m'en fous, en réalité, je m'en fous, mais je ne peux pas le dire. Je dis « ça n'a pas d'importance ». Ça n'importe pas, ça. Oui, mais c'est très important et c'est sympa. Je veux dire, c'est très. Quand j'ai parlé de vous deux, c'est vraiment marrant parce que. On est ensemble, Marion et moi. Mais qu'est-ce qu'on peut en dire? C'est un jeu.
Je
rigole parce que c'est. C'est très bien, j'ai fait. Ça joue. On pourrait dire, ça joue à s'aimer. Et ça se prend au jeu. Et c'est très bon. Et ça n'affecte, enfin, ça n'altère en rien ce que je suis. Ça ne modifie rien ce que je suis. Ça ne peut pas y rajouter un iota ou en enlever un iota. Ça ne peut pas.
Alors c'est vécu dans l'instant. Tout ce qui se vit dans l'instant. Donc, qu'est-ce que tu ressens pour quelqu'un en général? Ça perd de tout sens parce qu'alors il peut y avoir une ouverture de cœur et c'est dans l'instant T que ça se passe. Donc on ne peut pas y mettre une notion de durée. Alors évidemment, on peut dire j'apprécie quelqu'un, mais. Le terme ressenti,
c'est... Oui, je vais le dire autrement, mais ouais. C'est la même chose, c'est que je suis cet amour. Je ne peux pas ne pas être cet amour inconditionnel. Mais cet amour n'a pas besoin d'objet. Mm-hmm. Et cet amour, s'il n'y a pas d'objet, c'est un amour qu'on ne peut même pas voir. Parce que l'amour n'est connu que par sa projection sur des objets. C'est l'amour qui ne se connaît pas lui-même. Et dès qu'il y a un objet, il est aimé. Il ne peut pas ne pas être aimé. L'amour inconditionnel ne peut pas ne pas aimer. Dès que l'amour, dès qu'il y a un objet, tac, c'est aimé. L'objet disparaît. Il n'y a pas d'objet aimé. Je suis l'amour. Il n'y a pas d'objet aimé. Je ne sais pas que je suis l'amour. Je ne me connais pas. l'objet réapparaît, il ne veut pas être aimé. De façon spécifique à chaque fois. C'est comme vous avez différents objets et la lumière se projette dessus. C'est à chaque fois, on pourrait dire, c'est spécifique. Ça vient comme créer l'objet. En l'absence de lumière, il n'y a pas d'objet. Vous ne voyez rien. Dès qu'il y a de la lumière, il y a des objets. Et il n'y en a pas de pareil. Et l'amour, c'est pareil. Il y a des objets, ça se projette dessus, ça leur donne une forme, ça leur donne une consistance, ça leur donne une apparence. Waouh ! Et il y a un ressenti d'amour. Les photons sont renvoyés. C'est ça qui fait pouvoir l'objet. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est l'amour qui se reconnaît lui-même à travers les objets qu'il aime. L'objet disparaît. Il y a toujours les photons qui traversent l'espace, mais c'est noir. Vous voyez ? Jusqu'à ce qu'on rencontre un objet. Ça réfléchit le photon, il est vu. L'objet est vu.
C'est même l'amour inconditionnel, c'est aussi une pensée. C'est un concept, on peut l'imaginer si on peut ressembler.
Oui. Oui. Oui.
Le mot même d'amour, peut dire.
C'est le mot. C'est le mot.
Et là, tu vas dans un point très important, dans une direction très intéressante. C'est que tout n'est que pensée. Et qu'en réalité, il n'y a rien là. Parce que ce ne sont que des pensées. Le monde est une pensée. L'univers est une pensée.
Oui, parce qu'on parlait de repères, de code tout à l'heure, on ne sait pas de code.
Là, tout s'est fait. Là, ça t'expose tout là. Parce que c'est... Il n'y a plus de mots pour le dire, mais il y a beaucoup d'armes. Parce que l'amour, c'est déjà une manifestation. Quand on est enfant, on a besoin de père, et on a besoin de faire au père. L'adulte, on peut laisser pour des papas et venir au père. Il y a vraiment un truc comme ça. C'est pour ça quand la Bible dit qu'on met à l'image du Créateur, parce que ce n'est qu'un reflet. L'univers n'est que le reflet, que la manifestation.
Et à la fois c'est en même temps. C'est pas non plus un sujet, un objet, c'est tout en même temps.
En même temps, c'est la même chose. Il n'y a pas de séparation. C'est simple. À la fois, ce qui est ne se connaît pas lui-même et se connaît en tant que tout ce qui est manifesté. C'est l'issue du Tao. Hein, les deux simultanés. Mais là, on va dans les. On va très loin, là, je veux dire. Il y a aller plus loin. Je suis sympathique. Ce que je voulais dire, c'est que le même s'il arrive, peut arriver que les organismes passent directement en un état habituel, commun, enfin comme un commun immortel, à un état où il est réalisé que là il n'y a absolument rien et que tout ça est illusoire et que je suis ce qui est, et que voilà, le plus souvent et le plus facile, dans mon expérience, d'après ce qui a vécu cet organisme, déjà de regarder il y a un mois qu'il n'y en a pas, et de réaliser l'absence d'auteur, de pilote. Et rien que déjà réaliser cette première réalisation, réaliser qu'il n'y a pas de pilote, c'est déjà un peu dur. C'est à la fois très doux et radical. Et simple, même pas croire que c'est très compliqué. Pour ça? À la prochaine fois. Si tu veux.